Merci d'être avec nous. Nous allons retrouver nos rendez-vous avec Lamorque, l'ancien mystique ordre de la Rose-Croix, et notamment avec Michel Benoît, qui est notre invité aujourd'hui. Michel, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour.
Oui, je vous entends. Bonjour.
Super. Parce que nous sommes en Skype, hein, je le dis pour nos auditeurs qui juste vous entendent et ne vous voient pas pour l'instant. Michel, vous êtes conférencier à l'Université Rose-Croix Internationale.
C'est ça, oui.
Et nous avons décidé de parler aujourd'hui de science et spiritualité. Alors ça, c'est un sacré sujet. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est souvent, on les oppose souvent, la science et la spiritualité.
C'est vrai, c'est justement pour cette raison que je trouve important d'en parler aujourd'hui. Ça peut sembler être un sujet, compte tenu des problèmes que traverse la société en général, un sujet un petit peu lointain, mais je pense qu'au contraire, nous sommes à une époque où, avec les problèmes que la société et les individus ont à résoudre, on est en recherche de sens. Il y a une crise du sens. D'ailleurs, on le voit, le moral des gens, par exemple, en ce moment, on dit qu'il n'est pas bon. Chacun s'interroge sur le sens de tout ce que nous vivons d'une manière générale. Et je crois que ça vient des liens qui se sont en quelque sorte perdus au fil des siècles entre la science et la spiritualité. J'essaierai d'expliquer comment s'est faite cette rupture et pourquoi elle est, à mon avis, en grande partie à l'origine de cette perte de sens.
D'accord. Et pourtant, avant, il y a très longtemps, c'était assez associé quand même. Tous les scientifiques avaient une bonne spiritualité ou cherchaient Dieu derrière la philosophie. Enfin, on s'est beaucoup éloigné de tout ça.
On s'est beaucoup éloigné de tout ça, alors que si on regarde un petit peu en arrière ce qui s'est passé jusqu'à il y a 3 ou 4 siècles, il y avait un lien très étroit entre la spiritualité et la connaissance de la nature. Voilà, quand je parle de science, je me réfère essentiellement aux sciences qui cherchent à connaître la nature, donc des sciences qui sont plus près de ce qu'on appelle des sciences exactes, comme la physique, ou l'astronomie, ou la chimie, ou la physico-chimie. Toutes ces sciences, c'est à ces sciences-là que je me réfère, qui avaient une connaissance relativement méthodique dans le passé. Quand je dis du passé, je parle du Moyen Âge jusqu'à la Renaissance. L'époque moderne qui commence au XVIIe siècle a vu la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui la science, qui est quelque chose une méthode de connaissance qui est basée sur des lois universelles. Et ça, c'est une innovation, si on peut dire, du XVIIe siècle, on peut la dater. Et à ce moment-là, cette union étroite qu'il y avait entre la philosophie de la nature, la connaissance de la nature telle qu'on l'a héritée de l'Antiquité, et la spiritualité, cette relation étroite a fini par se distendre. Et le fait qu'il y ait dans le passé une relation étroite entre la spiritualité et la philosophie de la nature faisait que cette recherche de la connaissance des lois de la nature avait un sens qui était évidemment relié au principe spirituel. Et c'est ce lien qui s'est perdu. Et je peux essayer d'expliquer pourquoi. Mais auparavant, je vais peut-être définir ce que j'entends par spiritualité. La spiritualité à laquelle je vais me référer, c'est la conviction que la vie de l'homme ne se limite pas aux aspects matériels de son existence, c'est-à-dire qu'il possède aussi une âme, c'est-à-dire qu'il a une dimension spirituelle. Et dans ce domaine, je vais me référer particulièrement aux acquis qui nous sont transmis par des organisations traditionnelles authentiques, comme celles que vous avez mentionnées, la Morque et la Rose-Croix, mais il y a aussi des grandes religions qui sont porteuses de spiritualité, qui sont porteuses d'un enseignement, de la communication de certains principes dans ce domaine. Alors, les grandes religions, c'est aussi bien les religions chrétiennes que même les religions asiatiques. Elles se réfèrent toutes. Il y a un courant de pensée dans la philosophie traditionnelle qui a été inauguré, je pense, par René Guénon, selon lequel toutes les religions ont une racine commune que lui, il a appelée la tradition primordiale. Et c'est cette tradition qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours à travers les religions et aussi à travers les grandes écoles spirituelles telles qu'elles existent encore aujourd'hui.
Mais pendant toute une période, tout ce qui était religieux n'aimait pas trop la science. On se rappelle tous hein, de grands scientifiques qui ont souffert pour avoir déclaré que la Terre était ronde ou qu'elle tournait autour du Soleil, par exemple.
Oui, alors, c'est pas qu'il n'aimait pas la science, c'est-à-dire qu'il y a eu certains travers, il est vrai, par lesquels des théologiens ont essayé d'imposer leur vision aux scientifiques. Et je pense que d'ailleurs la crise qui est née, qui est parfaitement datée, hein, elle est née au XVIIe siècle avec Galilée, juste au tournant du XVIe et du XVIIe siècle, elle est venue parce que Galilée a voulu s'affranchir de cette tutelle. Et alors, mais il l'a fait pas avec l'idée d'une rupture avec la religion, parce que Galilée est quand même resté un chrétien, et à sa suite, des gens comme Descartes, et on peut dire que tout le XVIIe siècle et une bonne partie du XVIIIe, les gens qui s'intéressaient à la science sont restés de bons chrétiens. Je sais pas, il ne m'appartient pas d'en juger, mais en tout cas, ils se sont affirmés comme chrétiens. La rupture ne s'est pas faite, c'était pas une rupture à proprement parler avec la spiritualité, c'était une rupture avec le dogmatisme et l'autoritarisme religieux. Et c'est
Oui,
pas la même chose.
parce qu'il se prétendait chrétien, mais même Descartes, hein, qui prétend que sa méthode, c'est pour prouver l'existence de Dieu, par exemple. Mais c'était pour pas que
Oui,
l'Église
exactement.
le
Ils
fasse brûler vif, quoi.
restaient très attachés à leur religion, hein, à leur christianisme. Je répète, c'était la tutelle religieuse dans le domaine des connaissances de la nature qu'ils contestaient. Mais en réalité, cette rupture, elle a été un peu plus forte que celle-là. À l'époque, il faut situer les choses dans leur contexte. Disons, on ne va pas remonter à l'Antiquité, mais déjà simplement à la fin de la Renaissance. La tradition enseignait, comme elle l'enseigne encore maintenant, qu'il existe un principe qui est ordonnateur de la création et de l'univers, qui a créé des lois auxquelles cet univers est soumis, en particulier la nature, et des lois qui s'appliquent aussi à notre cadre de vie, aux phénomènes sensibles dont la nature est le siège. Et ces lois de la nature sont elles-mêmes les conséquences des principes qui gouvernent le monde spirituel. Et on considérait alors que la création, même la création matérielle, ce que j'appelle le monde corporel sensible qui nous entoure, était habitée de ces principes-là. C'est-à-dire que le monde ne se réduisait pas à son apparence matérielle. Et Galilée, puisqu'on va faire un saut brutal dans ce domaine, Galilée a en quelque sorte, comment dirais-je,
Ouvert une voie ou
estimé, il a estimé
estimé, pardon.
qu'il y avait un mélange qui n'était pas correct. Oui, bien sûr, l'homme avait une âme, il y avait un principe immatériel qui gérait son existence, mais que les objets de la nature, que les objets corporels et aussi que les objets célestes, et il a voulu le prouver, n'étaient pas, étaient réduits à la matérialité. Et je crois que c'est là que s'est produite la rupture. On voyait, au temps de la Renaissance, on voyait dans la création des symboles d'un monde spirituel. Symbole objet céleste notamment, qui était habité par quelque chose d'immatériel. Ce n'était pas seulement des objets matériels. Et la rupture de Galilée a été de montrer que ces objets célestes n'avaient rien de différent de ceux qui nous entourent, et ce qui est vrai, ce que la science a vérifié par la suite. Mais du coup, il en a déduit aussi qu'il n'y avait rien de spirituel dans ces objets. Qu'ils n'avaient plus ce rôle de symbole qu'on leur attribuait.
C'est assez intelligent
La
d'ailleurs, ça
notion de
permettait
symbole est
de...
importante, et peut-être je pourrais en dire un mot.
Allez-y, oui, d'accord. Je sais pas si vous
On peut
m'entendez en
dire
fait.
que les symboles, d'une manière générale, notamment dans la tradition, on utilise ce mot avec un sens qui n'est pas le même que celui qu'on donne dans la vie courante. Le symbole dans la tradition, c'est quelque chose qui renvoie à autre chose. Et ce autre chose, c'est justement quelque chose de spirituel. On peut avoir des objets, des images, des termes, des mots qui sont des symboles d'une réalité spirituelle. Ça, c'est une première chose. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, dans le christianisme, la croix, c'est un symbole qui nous renvoie à bien autre chose et qui est extrêmement abstrait et qui est très sacré. Dans les rituels religieux, on utilise des objets. Il y a de l'encens, il y a des choses comme ça qui eux aussi sont des objets qui sont destinés à nous renvoyer vers d'autres choses. Ils sont destinés à produire une image, mais pas seulement, c'est pas seulement une image, c'est quelque chose qui va nous mettre en quelque sorte en communication par notre intuition, qui va nous mettre en communication avec des principes non matériels, des principes spirituels. Et on voyait dans la création la même chose, par exemple le soleil était vu par exemple par Kepler à la fin du moyen de la Renaissance. Kepler voyait dans le soleil une image du Père, et dans l'espace entre le soleil et les planètes il voyait une image de l'esprit. Et donc c'était une manière, je donne exprès l'exemple de Kepler, qu'on considère quand même comme un grand astronome, Kepler qui a découvert le mouvement des étoiles selon des ellipses, qui était un mathématicien. Il s'est aidé de ces symboles pour construire son cosmos. Et c'est cette alliance qui existait donc encore à la fin de la Renaissance entre ces scientifiques et la vision spirituelle des choses, c'est cette alliance qui a disparu. On ne voyait plus avec Galilée, on n'a plus vu dans le cosmos des symboles du monde spirituel, du monde divin. On n'a vu que de la matière.
D'accord. Et en rendant cette matière et non spirituelle, ça permet quand même de faire la séparation et d'éviter quand même les combats, parce qu'il y a quand même eu combat pendant un certain temps.
Oui, alors évidemment, oui, absolument. Parce que je pense que ces combats ont reposé sur un profond malentendu dont l'Église est en grande partie responsable. Il y a eu aussi, je m'étais intéressé à un moment justement au procès de Galilée, on voit bien qu'il y a eu beaucoup d'erreurs commises surtout du côté de l'Église, mais aussi du côté de Galilée qui a espéré imposer lui-même. Il ne voulait pas la rupture avec l'Église, mais il voulait lui imposer un point de vue qu'évidemment l'Église à ce moment-là n'était pas prête à accepter. Donc c'est un accident malheureux que d'autres religieux, il y a eu des évêques, par exemple Nicolas de Cuse, qui était un évêque, était aussi un grand scientifique, et il a affirmé des choses qui étaient contraires aux enseignements de l'Église, mais il l'a fait avec une certaine habileté, ça ne lui a pas valu de problème. Donc ça montre qu'une certaine cohabitation était encore possible au XVIIe siècle.
D'accord. Il faut dire quand même que l'Église était toute puissante.
La consommation du divorce s'est faite au courant du XVIIIe siècle et particulièrement au XIXe, c'était parce qu'il y avait une volonté chez certains, alors là du côté scientifique, une volonté de se détacher carrément de l'idée qu'il y ait un Dieu ordonnateur dans l'univers. Voilà.
Après, on s'en rapproche, puisque Einstein lui-même, au bout d'un moment, a dit « c'est tellement puissant, tellement précis que le hasard n'a rien à voir dans cette création ».
Alors,
finalement, là, on s'est rapproché. Quoi.
Je vois sur une question très fondamentale qui est celle du hasard. C'est le hasard qui intervient dans les sciences et qui est une réalité qu'on ne peut pas nier, est à l'origine justement de beaucoup de nos problèmes actuels, à mon avis. Mais avant de revenir à ça, je voudrais revenir à ce qui s'est passé au XIXe siècle. Parce qu'à mon avis, la vraie rupture avec la spiritualité, elle s'est faite au XIXe siècle. On avait, tout au long du XVIIIe siècle, encore essayé de garder un lien avec la religion, avec les principes spirituels, mais vraiment, au XXe siècle, au XIXe siècle, la rupture s'est faite de manière presque délibérée de la part de certains qui étaient carrément des personnes, des philosophes athées et qui ont voulu vraiment se débarrasser totalement, pas seulement de la religion, mais de Dieu lui-même. Tout au long du XXe siècle, en effet, on s'est, à cause des succès de la science et de ses applications techniques, déjà au XVIIIe, il ne faut pas oublier que l'industrialisation était déjà relativement bien avancée au XVIIIe siècle, on s'est persuadé alors que la science était en quelque sorte détentrice de toute la vérité. Et on a fini par penser que la science finirait par tout expliquer, et même qu'elle deviendrait la source de toutes les valeurs. Et ça, c'était ce n'était pas des scientifiques qui affirmaient, c'était des philosophes. Par exemple, Auguste Comte, qui a été le fondateur de ce qu'on a appelé le positivisme, voulait absolument extirper de la vie de la société ce qui pouvait rester d'influence de la théologie et de la métaphysique. Son but, c'était d'assurer aux sciences un développement fondé exclusivement sur l'expérience, sans aucune référence à un fondement spirituel ou métaphysique. Et il est allé très loin, puisqu'il voulait une société qui fonctionne selon des principes et une méthode scientifique. C'était une espèce c'était pour lui, c'était devenu une espèce de foi, de religion matérialiste. Et Renan, à sa suite, qui était un historien, à la fin du 19e, il a proclamé avec beaucoup d'enthousiasme que la science serait l'intelligence tout entière de la nature humaine et qu'elle porterait à ce titre une réponse définitive au problème dont les religions avaient improvisé la réponse. Donc, vous voyez, on les allait très loin. Donc.
Oui, et mais ils avaient...
ça venait de ce... On peut dire que d'une certaine manière, la science a été victime de son succès, parce qu'elle a connu de tels succès au cours du 19e que voilà, on a pensé qu'on avait trouvé la solution de tous les problèmes. On avait bon espoir que la science finirait par donner la réponse à toutes les questions. Et je dois vous dire que à la fin du 19e siècle, certains physiciens pensaient que, effectivement, la physique avait quasiment terminé sa tâche, quoi. Sa tâche de recherche.
Ben, c'était un petit peu
comme une espèce de leçon qui lui serait venue du ciel. Il a fallu une véritable révolution de la pensée qui a été introduite par la microphysique au tout début du 20e siècle et aussi par la relativité, notamment, pour que les physiciens s'aperçoivent que, ben non, ils n'étaient pas au bout de leur peine, qu'au contraire, de vastes avenues étaient en train de s'ouvrir et qu'elles étaient pleines de mystères.
Oui, puis que d'enlever complètement la part spirituelle, peut-être que ça enlevait une partie humaine aussi dans toute cette histoire. Vous parlez de la relativité, mais bon, quand on voit la bombe atomique, on se dit que la science, finalement, peut être dangereuse si on n'y ajoute pas un petit peu de spiritualité ou d'humanisme.
Tout à fait, mais remarquez que ce que vous dites là, c'est un constat qui est relativement récent. On peut dire en gros, je suis bien placé pour le savoir parce que c'est le moment où j'ai commencé mes études, après la bombe atomique. La bombe atomique a été un coup de semonce qui a même effrayé, vous avez parlé d'Einstein. Einstein lui-même a été épouvanté quand il a vu ce à quoi pouvait conduire la recherche scientifique. Je crois que cette bombe atomique a été effectivement une bombe dans l'esprit non seulement des scientifiques, mais peut-être aussi du grand public, qui brusquement s'est rendu compte que la science n'était pas seulement, pouvait ne pas être seulement porteuse de bienfaits.
Effectivement.
Mais la crise chez les physiciens, elle avait commencé un peu avant. Là, il faut revenir sur ce qui s'est passé au tout début du 19e siècle, du 20e siècle. On a fait, à la charnière de la fin du 19e et du début du 20e siècle, en l'espace de 20 ans, on a fait des découvertes, une cascade de découvertes très fondamentales qui ont bouleversé complètement le paysage scientifique. En quelques années, on a découvert les rayons X, les quantas, l'effet photoélectrique, la radioactivité, les électrons, les atomes, tout ça s'est fait en une vingtaine d'années. Et à ce moment-là, avec les atomes, on a découvert que la matière nous posait des questions, parce que les atomes, en réalité, c'est essentiellement du vide, comme vous le savez, et puis quelques particules. La matière est faite de vide, et il y a de quoi s'interroger.
C'est une des questions de la science actuelle, parce que ce vide n'est pas si vide que ça, apparemment. D'après certains chercheurs.
Oui et non. Il ne contient rien de matériel. Ce vide, il est immatériel. Parce que quand on nous dit qu'il est plein de champs d'énergie, personne n'est capable de vous dire aujourd'hui ce qu'est l'énergie. C'est une notion qui est complètement abstraite. En tout cas, elle n'est pas matérielle. L'énergie peut se matérialiser, c'est vrai, mais l'énergie en elle-même, c'est quelque chose d'absolument impalpable. Et si on fait référence, effectivement, comme vous le dites, au vide quantique qui existe à l'intérieur des atomes, ce vide quantique, c'est essentiellement de l'énergie. Mais l'énergie, qu'est-ce que c'est? C'est absolument impalpable. Et c'est pour ça que, et c'est en se posant ce genre de questions, d'ailleurs, que les physiciens ont dû, certains d'entre eux, en tout cas, ont fait l'effort de se tourner vers la philosophie, parce que la physique ne pouvait pas répondre à ces questions-là.
Et vous parlez de mécanique quantique, mais c'est vrai qu'elle a ouvert des portes aussi, parce qu'elle nous a fait découvrir des mondes qu'on n'imaginait même pas, et qui se rapprochent de choses un peu spirituelles, ou en tous les cas, un peu ésotériques, quoi.
Alors, vous avez raison de dire qu'on a approché là un univers qui nous était tout à fait étranger. Je voudrais simplement prendre la précaution de dire qu'on a trop tendance à tirer la physique quantique vers des choses un peu ésotériques. Personnellement, je suis plus prudent. Je vais vous dire pourquoi. On a affaire avec les objets. Alors, d'abord, pour nos auditeurs, précisons de quoi on parle quand on parle de physique quantique. On parle de c'est la physique qui gouverne les lois concernant les particules. Pas seulement les particules qu'on retrouve dans les atomes, c'est-à-dire les électrons, les protons et les neutrons, mais il y a aussi une très grande quantité de particules qui ne sont pas dans la matière qui nous entoure, mais qui nous viennent du cosmos et qu'on appelle le rayonnement cosmique. Ce sont des particules qui sont émises au cours des réactions qui se produisent dans les étoiles, notamment, et qui nous arrivent comme une espèce de pluie sur Terre. On les a découvertes, justement, au début du XXe siècle. On a découvert que ces particules ont des propriétés très étranges, comme celles, d'ailleurs, qui constituent l'atome. Alors, ces entités quantiques, dont il est impossible de dire que ce sont de la matière, parce que ces particules, elles n'ont aucune des qualités que nous connaissons à la matière. Elles n'ont pas de forme, elles n'ont pas de couleur, elles n'ont pas d'odeur, elles n'ont pas de consistance. Elles existent pourtant et elles produisent des effets. Mais on a affaire à quelque chose qui se présente comme quelque chose d'hybride. Le Heisenberg, qui est un des pères fondateurs de la physique quantique, et prix Nobel de physique, il disait que les atomes ou les particules élémentaires elles-mêmes ne sont pas des réalités comparables aux faits réels de la vie de tous les jours, que ces entités constituent un monde de potentialités et de possibilités plutôt qu'un monde de choses et de faits. Là, je le cite, c'est sa phrase. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il fait allusion au fait que ces particules, prenons la plus connue, l'électron par exemple. Un électron, on a découvert qu'il peut apparaître soit sous forme de particules, comme un minuscule corpuscule, soit avoir les effets d'une onde. Et il faut quand même bien admettre, sans être physicien, on peut bien se rendre compte qu'une particule ou une onde, ce n'est pas la même chose. Une vague à la surface du sol, ce n'est pas comme la pluie. Or, on s'aperçoit que cette particule, donc, quand on essaye de la traquer, de la détecter, de l'observer, on a des moyens très indirects d'observer, mais on peut observer ces particules par les effets qu'elles produisent dans des gros instruments. Eh bien, on peut, selon le type d'instrument, selon le type d'expérience qu'on fait, on va mettre en évidence un phénomène de caractère ondulatoire, comme si c'était une onde, ou de caractère corpusculaire, comme si c'était un corpuscule. Et ça va dépendre tout simplement de la manière dont on va faire l'observation. Donc c'est une espèce de caméléon qui possède deux identités. Laquelle est la bonne quand on ne l'observe pas? Personne ne peut le dire. Les physiciens vous disent que la question n'a pas de sens de savoir ce qu'est un électron tant qu'on ne l'a pas observé. C'est quand même perturbant, ça.
Oui. Bah, surtout que ça dépasse notre capacité actuelle, c'est-à-dire que vous me dites quelque chose qui existe et qui n'existe pas en même temps, franchement, on ne peut pas comprendre, quoi.
Voilà, exactement. Alors, c'est ce que dit Heisenberg. Il dit, tant qu'on ne l'a pas observé, c'est une entité qui reste une possibilité de quelque chose, d'être quelque chose, de devenir quelque chose. Alors ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on tombe sur un problème qui est aussi vieux qu'Aristote. Si on remonte à la philosophie grecque, Aristote avait eu une idée de génie. Il avait distingué un fait potentiel et un fait en acte. Par exemple, un bloc de marbre est potentiellement une structure, une sculpture. Il peut devenir une sculpture. Donc, il y a le bloc de marbre contient en potentiel toutes les sculptures possibles. Mais elles ne sont pas actualisées, elles ne sont pas rendues existantes. Eh bien, dans le fond, le statut d'une particule, c'est un peu ça. Il est susceptible de plusieurs possibilités d'existence qu'on connaît, soit une onde, soit un corpuscule. Mais tant qu'on ne l'a pas détecté, eh bien, cette capacité, cette potentialité, elle ne se manifeste pas.
Et là, on s'approche quand même un peu de la spiritualité, de ce qu'on peut voir ou ne pas voir, de ce qu'on peut créer ou pas créer en fonction de notre foi ou pas.
Avec cette réserve, oui, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est totalement immatériel, puisque ça peut devenir matériel. Ça peut devenir, pas matériel, mais sensible, enfin, ça peut être détecté, ça peut être observé, ça peut exister dans notre monde. Mais ça peut être aussi en situation d'attente, de manifestation. Alors c'est vrai qu'en utilisant des termes comme ça, on voit bien qu'on devient assez proche de l'ésotérisme et de la spiritualité. Oui, je suis d'accord, oui.
Pour approcher de la fin de notre conversation, on arrive quand même en ce moment, au XXIe siècle, à rapprocher les deux. Science et spiritualité ne se font plus la guerre comme au XIXe par exemple.
Oui, alors, pourquoi ce rapprochement est possible depuis 50, 60 ans? Parce que tous ceux qui réfléchissent à ces questions se posent des questions. Elles s'aperçoivent évidemment que la science ne peut pas donner des réponses. Et aussi, moi justement, j'aimerais insister sur ces questions qu'on se pose, parce qu'à mon avis, elles rendent compte du malaise dans lequel se trouve notre société, qui a perdu le sens des choses. D'abord, les théories scientifiques, quand je dis des théories scientifiques, je parle aussi bien de la physique que de la biologie, elles ne prétendent plus dire ce qui est vrai. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on construit des théories dont l'ambition est seulement de rendre compte de ce qu'on observe ou de ce qu'on peut observer. On ne prétend pas dire la vérité. C'est pour ça que certaines personnes disent « les théories sont relatives ». Elles ne sont pas relatives, elles restent exactes tant qu'elles rendent compte de ce qu'on observe. Donc ce n'est pas relatif, ce n'est pas une question d'opinion. On arrive à se mettre d'accord sur des théories, mais c'est vrai qu'une théorie, elle peut normalement à tout moment être infirmée. Par exemple, on parle beaucoup du Big Bang, qui est une théorie, mais il y a toujours eu, depuis que cette théorie du Big Bang existe, moi j'ai toujours connu des physiciens qui la contestaient.
D'accord.
Et elle peut être remise en question.
Puis on voit aujourd'hui,
plus,
par exemple,
qui est très difficile à vérifier.
Oui. Puis on voit aujourd'hui, par exemple, que certaines lois physiques ne s'appliquent pas au bord d'un trou noir, par exemple, dans certaines conditions. Donc c'est vrai que toutes ces réalités sont pas forcément des vérités concrètes et inamovibles, quoi.
La science, et notamment la physique, qui est pourtant une science exacte, a renoncé à prétendre dire qu'elle connaît la vérité, même une vérité partielle sur une question très précise. Pas du tout, parce qu'elle est toujours prête, on est toujours prêt à remettre en question la manière que nous avons de représenter et d'expliquer les choses.
Donc après, ça
devient...
Il
y a un autre problème qui, à mon avis, est la cause du malaise que nous vivons, c'est qu'on découvre qu'à mesure qu'on essaie d'approcher des problèmes les plus fondamentaux, les plus à la base, qu'il s'agisse de physique ou par exemple qu'il s'agisse de biologie, on s'aperçoit que les choses sont plus complexes à mesure qu'on les approche plus intimement. Et ça, c'est quand même très perturbant. Par exemple, on s'est aperçu que les particules qu'on croyait être des entités qui formaient un tout, comme par exemple les protons ou les neutrons, on découvre qu'en fait, ils sont eux-mêmes constitués d'autres choses. Et on a l'impression qu'on a affaire à des espèces de poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. On peut se demander s'il y a une limite à ça. On a l'impression que la matière, en physique en tout cas, elle devient évanescente à mesure qu'on essaye de mieux la cerner. Alors ça, c'est très déstabilisant. Ça pousse à se poser des questions. Si on ajoute à ça le rôle que joue le hasard, là je ne l'ai pas mentionné, mais en physique, aussi bien en physique des particules qu'en biologie, on sait bien que le hasard joue un rôle très important. Alors le hasard, par définition même, en tout cas en science, c'est pas le même que le hasard dont on parle dans la vie courante. Le hasard dans un jeu de dés ou dans un jeu de cartes, il vient simplement de la difficulté. On connaît les lois qui gouvernent les mouvements d'un dé qu'on lance en l'air. On ne peut pas prédire sur quelle face il va tomber, simplement parce que les conditions de départ sont tellement complexes à mettre en œuvre qu'on ne pourra jamais faire un calcul précis. Mais théoriquement, on connaît les raisons du déroulement. Théoriquement, on devrait pouvoir calculer comment va tomber un dé qui tombe. Le hasard, c'est simplement dû à une insuffisance de nos connaissances. Mais en physique des particules, le hasard, c'est une absence de cause. Un atome radioactif, personne ne peut dire quand il va se désintégrer et pourquoi tel atome se désintègre maintenant et tel autre qui lui est exactement identique va se désintégrer dans 20 ans. Il n'y a pas de raison à cela, c'est le pur hasard. Ça, c'est le hasard scientifique. Cette idée que le hasard scientifique niche au cœur de notre monde, aussi bien dans le monde vivant, en biologie, que dans les éléments de physique, c'est très déstabilisant et c'est vrai que, du coup, c'est ça qui conduit à une véritable perte de sens. Je cite par exemple deux choses que dit le prix Nobel de physiologie. Dit « L'homme ne peut se leurrer de l'espoir qu'il participe à quoi que ce soit qui le dépasse. Il sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard. » Et un autre prix Nobel, Weinberg, un prix Nobel de physique, celui-là, dit « Plus on comprend l'univers, plus il est dépourvu de signification. » Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus humiliant pour l'être humain que de penser qu'il est le résultat du hasard.
Bah, plus on comprend, moins on comprend, ça veut dire, en fait.
Plus, exactement. Oui, plus super. On pénètre dans la compréhension, et moins tout ça a de sens. Alors, du coup, on en arrive à se poser la question de savoir toutes ces lois. Parce que je voudrais quand même souligner un point. C'est que, malgré tout, les scientifiques croient toujours à l'existence d'une loi. Alors, s'il y a une loi, il y a un ordre. S'il y a un ordre dans l'univers, il est difficile d'imaginer qu'il n'y a pas un ordonnateur. Là on est devant... Et puis, cette quête d'unité dans les grandes théories de la physique, cette recherche de l'unité, cette recherche des symétries dans les lois de la physique, il y a des principes de symétrie en physique qui sont très importants. Tout ça... On sent que c'est comme un résidu, si vous voulez, de la spiritualité qui existait il y a plusieurs siècles dans les sciences de la nature. L'idée même d'évoquer une loi dans la nature, moi je trouve que c'est quand même une contradiction, parce que dans le hasard de la physique, on connaît les lois du hasard. C'est-à-dire, par exemple, quand un phénomène peut se produire, il y a un phénomène, une particule peut par exemple prendre plusieurs états. On sait calculer la probabilité que ce soit tel état ou tel autre qu'on observe. Ça, on connaît, on a des théories, des formules, des calculs qui nous permettent de prédire. Mais on ne peut pas prédire qu'est-ce qui va se passer, mais on sait que ça va être une de ces possibilités. Ça veut dire que le hasard ne nous donne pas une infinité de possibilités, il en donne un nombre bien connu et pas plus. Donc il y a quand même des lois du hasard.
Bien, ben je vais vous poser une dernière question qui n'est pas tout à fait due au hasard. Vous êtes quand même un scientifique, Michel Benoît, puisque vous travaillez au Centre d'études et de recherche sur le nucléaire. Vous-même, comment vous faites la part? Parce que si vous faites partie de l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, c'est que vous avez une certaine spiritualité. Comment vous faites la part des choses en tant que scientifique, en vous?
Alors écoutez, c'est une question qu'évidemment on pose de temps en temps. D'abord, moi je suis venu à la spiritualité essentiellement justement parce que je me posais ce genre de questions. Et deuxièmement, je suis convaincu, c'est ce qu'enseigne l'ordre de la Rose-Croix, il y a dans la création des lois et des principes qui sont universels, et la science ne fait qu'appliquer à des domaines de connaissances particuliers de tels principes. Donc il y a une unité là-dedans. Et de ce fait, je ne suis pas gêné de faire cohabiter les deux. J'ai eu beaucoup de collègues, des scientifiques, qui vivaient dans un monde qui était cloisonné en deux parties, les quelques-uns d'entre eux qui étaient, par exemple, qui pratiquaient une religion, me disaient toujours, ah bon, oui, moi je sépare très bien ce qui est, je cloisonne ce qui est religieux et ce qui est dans mes activités de physique. Moi, ça c'est un cloisonnement que j'ai jamais pu faire. J'ai toujours essayé de faire l'unité entre les deux, l'union entre les deux, c'est-à-dire retourner à cet esprit tel qu'il existait au temps de la Renaissance, au temps de Kepler, qui était quand même un grand scientifique. Et je pense que c'est toujours possible si on s'efforce de connaître les grandes lois et les grands principes qui gouvernent la création, aussi bien au niveau spirituel qu'au niveau matériel.
Bien, puis il y a des grandes questions.
Par exemple, il y a un grand principe de physique. Je vous donne un exemple qui est très simple et très trivial. Il y a un grand principe de physique qui dit que toute action entraîne une réaction. Eh bien, ce qu'enseigne l'ordre de la Rose-Croix, et pas seulement lui, c'est que toute action dans la vie va avoir tôt ou tard une répercussion sur nous, en bien ou en mal. D'accord. C'est un exemple d'un très grand principe qui gouverne aussi bien des lois de la physique que des lois spirituelles.
Oui, bah tout ce qu'on fait, tout acte a forcément des conséquences de toute façon, donc c'est logique.
Absolument, quand on voit les catastrophes, et ce que je dis est valable au niveau des individus, mais aussi au niveau des sociétés, quand on voit les catastrophes qui s'abattent quelquefois sur certaines populations, il y a toujours à la base, c'est pas une fatalité, il y a toujours quelque part une responsabilité, oui.
Puis bon, au niveau de la science et de la spiritualité, il y a aussi des choses qu'on peut s'amuser à constater. C'est vrai que la science peut décortiquer le vivant, analyser, essayer de comprendre, mais ne sait pas pourquoi un être vivant est vivant, par exemple. D'où vient cette vie ?
Oui, exactement. C'est la question du sens. C'est ce que j'appelle la question du sens. C'est cette crise à laquelle on a abouti à la fin du 19e, au début du 20e, avec cette question du sens. Et cette question-là, on la trimballe encore de nos jours. On voit bien que si chacun d'entre nous se consacrait à essayer d'étudier ces principes spirituels, ça nous permettrait de donner un sens même aux épreuves pénibles que nous traversons. Or, et à ce moment-là, on n'aurait pas on ne vivrait pas ces crises que nous vivons actuellement. C'est sûr.
Et malheureusement, on n'en est pas là. Je vous remercie, Michel Benoît. Je rappelle.
J'ai bon espoir parce que je vois bien que les dialogues entre les scientifiques, les philosophes, les théologiens et aussi les artistes. Il faut aussi inclure les artistes comme porteurs de vérités immatérielles, de vérités spirituelles. Ces dialogues existent et à mon avis, ils se multiplient. Et je trouve que c'est un bon signe.
Merci beaucoup, Michel Benoît. Est-ce que vous venez des fois dans la région rendre visite à nos amis de La Morque Avignon? Rue Buffon.
Ça m'arrive, oui.
Ça vous arrive ? Bon, la prochaine fois que vous venez, vous viendrez nous faire un petit coucou directement au studio d'Osmose Radio. En tous les cas, je rappelle que La Morque, l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, fait des réunions tous les mois, le deuxième samedi du mois, je crois, donc dans leur antenne ici à Avignon, rue Buffon. Vous pouvez également les appeler pour vous renseigner au 06 07 10 98 10. 06 07 10 98 10. Michel Benoît, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis peut-être à très bientôt. Au revoir.
À bientôt, au revoir.